Eh bien, contrairement à ce qu'a dit Victoria, que je salue quand même, je suis, enfin, Daniel Amy, je suis quand même présent au poste ce soir, mais juste pour quelques minutes.
En visite.
En visite, simplement quelques minutes, je reviendrai un peu plus tard, vers 7h, j'espère que vous aurez nettoyé le studio, vous l'aurez laissé aussi propre que vous l'avez trouvé en rentrant, parce qu'à 7h, on recommence une autre série. Non, on avait décidé, nous avons décidé avec, à l'initiative de Serge Beketch, de changer un petit peu la formule de cette première partie, et de la rendre un peu plus politique. Moi, je fais pas beaucoup dans la politique, alors c'est vrai qu'il y a quand même un public pour la politique.
C'est très exagéré.
Enfin, je fais peu dans la politique. Bon, ça c'est Alain Sardas qui est en train de parler, bien évidemment. Et donc, grâce à notre ami François Colombier qui va animer cette première partie d'émission, eh bien, toutes les semaines, vous aurez pendant une heure le billet de Serge de Beketch, évidemment, son petit éditorial, et puis lui-même étant en direct par la magie du téléphone, eh bien, vous allez tous pouvoir conférer et discuter sur la politique. Alors, je voulais saluer, bien sûr, la gentillesse de François Colombier qui accepte cette lourde tâche d'assurer cette première partie d'émission, pas tout à fait première partie, mais presque, et puis saluer, bien sûr, toujours la présence souriante de Victoria, n'est-ce pas, que tu m'oublies de temps en temps, mais c'est pas grave.
Fois,
et puis salut aussi, bon, la présence dans le studio, bien sûr, d'Alain Sanders, qui est à ma gauche, exceptionnellement ce soir, je dois dire. À ma gauche.
À gauche. Ah,
quand même, bon. Et puis alors à ma droite, qui est encore plus extraordinaire.
Non, ça c'est normal.
Ça c'est pas difficile.
Oui, c'est pas difficile.
Je veux dire, c'est pas difficile.
Martin Pelletier. Vous voyez que l'ambiance est déjà très forte ce soir. On se sent un boulevard Murat, donc sur Radio Courtoisie. Je vais donc vous laisser. Serge est sans doute au téléphone. Il va bien sûr faire son petit billet, comme d'habitude. Et puis ensuite, je crois qu'il interviewera une personne qui est présente aussi dans le studio. C'est le pasteur Jean-Pierre Blanchard.
Bonsoir.
Et voilà. Donc, j'ai tout dit. Et moi, je reviens à 7h, mes enfants. Bonne émission.
Adieu.
Au revoir, papa.
C'est grand-papa qui est là.
7h02.
Bonsoir, Serge. Comment allez-vous?
Ben, je vais très bien. Bonsoir à tous les auditeurs. Je vais bien parce que, décidément, Toulon est une ville bien agréable. On s'amuse beaucoup. On n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Et puis, on voit la France d'un peu loin. Parce qu'à Paris, on a l'impression d'être au milieu des choses, tandis que à Toulon, on est un petit peu détaché. C'est beaucoup plus amusant. Alors,
vous avez bien de la chance, d'une certaine façon.
Oui, mais en plus, il fait très beau. Vous savez, le matin, on prend le petit déjeuner sur la terrasse, quand même.
Ah oui, mais là, le soleil s'est couché, quand même.
Ah oui, non, j'ai dit le matin, pas le soir.
Oui. Vous avez entendu, Serge, le nom de tous les invités qui sont autour de cette table, qui est votre table, d'ailleurs.
Oui.
Et c'est à ma droite, table. Monsieur le pasteur Blanchard, et Alain Sanders, que vous connaissez bien.
Oui, on se connaît un peu. Oui.
Toujours dans le présent, oui. Et Martin Pelletier.
Oui, je connais aussi.
Et nous attendons la venue, il est en retard, ce n'est pas bien, d'Éric Letty.
Tiens, Éric Letty est en retard.
Oui.
Évidemment, on aura tout vu. C'est la nouvelle la plus extraordinaire de la journée.
Alors, je ne sais pas si dans ce cas-là, on lui donne un gage ou pas.
Oui, mais enfin, le punir sévèrement.
Nous attendons sa venue impatiemment.
Eh bien, moi, je dois dire que je me réjouis d'avoir tous ces brillants journalistes autour de moi, si j'ose dire, même à plusieurs centaines de kilomètres de distance.
Vous êtes avec nous, là?
Oui, je suis avec vous, absolument. Comme Mireille Mirosca. Et je trouve que la vie politique est toujours aussi passionnante. Par exemple, j'ai lu une déclaration de monsieur le président du Sénat, vous avez René Monory,
oui,
qui a déclaré dimanche que le Front National n'a pas tellement sa place dans la vie politique française. Hein? Évidemment, on peut dire ça. C'est un petit peu comme on dirait que un honnête homme n'a pas sa place dans une réunion de la mafia, quoi.
Oui.
J'ai vu récemment que monsieur Bernard Tapie, à qui on avait demandé, enfin à propos duquel on avait demandé, la justice avait demandé la levée de l'immunité parlementaire, a été épargné par ses pairs qui ont levé l'immunité, mais en interdisant au juge de le mettre en prison. Vous avez vu ça?
Oui, j'ai lu ça dans Présent.
Bon,
oui.
Récemment, dans la région de Toulon, pratiquement en ce moment, on a une arrestation par jour de personnes politiques appartenant au RPR pour diverses malversations.
Oui.
Donc tout ça, si vous voulez, ça montre bien que effectivement, comme le dit Monsieur Monory, la vie politique française n'a pas besoin du Front National. Pas plus que la mafia n'a besoin d'avoir dans ses rangs un représentant, je sais pas moi, des dominicains ou des petits frères des pauvres. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Je pense que c'est dans cette idée-là que M. Monory a prononcé cette déclaration. J'ai vu aussi une chose tout à fait intéressante, c'est qu'à Paris récemment, il y a eu 1600 tamouls qui ont défilé pour réclamer l'arrêt de l'offensive de l'armée sri-lankaise contre la guérilla tamoule. Oui, vous n'aviez pas vu ça, ça vous a échappé.
Non, totalement.
Alors, ces manifestants appartenaient à un groupe qui s'appelle les Tigres. Alors, il faut savoir que les Tigres Tamouls sont parmi les groupes terroristes qui sévissent dans le monde, un des plus violents et un des plus implacables.
Serge, mais... votre information là, inspire une réflexion à Martin Pelletier.
C'est pas une réflexion,
alors,
Serge,
oui,
tu m'entends?
Oui, j'ai perdu, oui.
Et j'y étais, et c'était à l'Opéra Bastille, effectivement, il y avait comme ça des drapeaux rouges de ces chers Tigres qui étaient là, et j'avais mon chauffeur de taxi qui était arabe qui m'a dit quand même, on ne sait pas pourquoi on accepte tous ces étrangers en France, ça commence à bien faire tout de même. Parce qu'effectivement, c'était un épouvantable bordel. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Alors, ce qui est intéressant aussi quand même de constater, c'est que M. Massonnier, qui a brandi les foudres de la justice contre les manifestants, les sauveteurs, qui prient devant les abortoirs, tolère que les complices d'un des mouvements de terrorisme les plus implacables du monde manifestent dans Paris.
Oui.
Vous voyez, ça c'est dans la logique du gouvernement actuel.
Serge, il est prévu que nous en parlions tout à l'heure,
bon,
là, justement de la persécution
de
certains catholiques.
Actuel, hein. Alors, ça va nous faire un beau sujet de conversation. J'ai vu aussi, alors ça c'est une bonne nouvelle, dans le désordre général, que le château de Saint-Louis de Neuvy-sur-Barangeon vient d'être acheté finalement par Roger Olyndre et le CNC. Vous avez certainement suivi cette affaire. Vous savez que Roger est venu plusieurs fois dans mon émission Radio Courtoisie pour appeler à la mobilisation des énergies et des portefeuilles, et il a obtenu quand même 1500 réponses d'auditeurs, d'amis, de militants qui ont participé à la société civile immobilière qui a été créée pour racheter le château.
Oui, oui.
Et ça, c'est une très très belle victoire. C'est une victoire d'autant plus belle que visiblement, elle provoque dans les médias une crise de rage incroyable.
J'ai appris cette information, je crois que c'est hier, dans Présent, encore une fois. D'ailleurs,
oui.
Cette bonne nouvelle de l'achat par Roger Olyndre du château de Neuvy. Serge, on me fait passer un message vous demandant de parler peut-être un peu moins près du micro.
Ah, un peu moins près, bon. Ça, c'est la mauvaise habitude prise au micro du studio qui fait que quand on est en micro téléphone, on fait la même chose.
Parce que sinon, on va recevoir également de nombreux messages d'auditeurs nous demandant la même chose.
Bien, alors comme ça, est-ce que c'est mieux? J'espère.
Ça me semble parfait, moi.
Bon. Voilà, alors parmi les autres nouvelles que je voulais dont je voulais souligner le côté un peu amusant, il y a l'affaire du sacerdoce des femmes. Vous avez vu que beaucoup de journalistes sont émus du fait que Sa Sainteté a décrété ex cathedra, c'est-à-dire en mettant en fonction, si j'ose dire, l'infaillibilité pontificale, que jamais les femmes ne pourraient être prêtres.
Oui, 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 nous avons tous suivi ça, oui.
Vous avez vu ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette histoire, c'est que ça a provoqué de véritables réactions hystériques dans la presse de la part de gens qui ne foutent jamais les pieds à la messe.
Oui,
pour cause d'ailleurs, parce
qu'il
y en a beaucoup qui vont à la synagogue, ou qui vont au temple, ou qui vont à la mosquée, ou qui vont partout, sauf à la messe. On ne peut pas dire que les journalistes catholiques soient massivement représentés à l'heure actuelle dans l'univers médiatique.
Ah, me semblait-il, oui.
Donc on se demande vraiment de quoi ils s'occupent, ces gens-là. Moi, personnellement, je me contrefous de savoir s'il y a des rabbins, ou s'il y a des imanes, ou s'il y a des adoratrices de l'oignon, ça m'est complètement égal.
Mais je crois qu'ils s'en foutent totalement.
Oui,
mais ce qui les intéresse en revanche, c'est la destruction continue et encore plus profonde de l'Église catholique romaine.
C'est exactement ça.
Et du Saint-Père.
Voilà, alors c'est pour démontrer que Saint-Père est un horrible macho. Alors moi je trouve qu'en bonne logique, ces gens-là devraient faire une chose. Ils devraient dire, bon écoutez, il faut que les femmes soient prêtres et il faut que les hommes puissent avoir des enfants. Puisse être enceint. Hein? Pourquoi pas? C'est du même ordre. Disons que les femmes, elles, donnent la vie et les hommes sont investis d'un pouvoir tout à fait particulier qui est le pouvoir de faire manifester, c'est le rôle du prêtre, la présence réelle du Christ dans l'hostie. Hein? Or, le pape nous dit, ex cathedra, avec son infaillibilité pontificale, ça n'est pas possible. Par conséquent, il faut changer tout ça. Il faut donc donner aux femmes le moyen de faire venir la présence réelle et aux hommes le moyen de porter la vie dans leur ventre. Voilà. Seulement, il y a une des deux choses qui, même si le pape en décidait autrement, ça ne marcherait pas, vous voyez. Et encore une fois, je suis tout à fait étonné de voir qu'il y a des gens qui accordent une telle importance à cette affaire, alors que visiblement, elle ne les concerne pas. Il y a une autre nouvelle qui m'a beaucoup intéressé cette semaine, c'est l'élection d'un communiste en Pologne qui est intervenu précisément le jour du 50e anniversaire de l'ouverture du procès de Nuremberg. Alors là, on peut dire qu'on a fait des grands progrès dans le domaine de la tolérance, puisqu'il y a 50 ans, on envoyait à la potence les représentants du régime nazi, qui a provoqué la mort de 38 millions de personnes, si on considère que toutes les morts de la Deuxième Guerre mondiale sont directement ou indirectement imputables au national-socialisme. Il y a eu 38 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on peut considérer que les nazis sont responsables, étant donné que c'est eux qui ont semé le feu et le sang et le fer dans le monde, on peut considérer qu'ils sont responsables de ces 38 millions de morts. Donc on a pendu, en 1945, les responsables de cette tuerie. Et 50 ans plus tard, le même jour, le jour anniversaire, on porte au pouvoir le représentant d'un régime qui, lui, a tué au minimum 200 millions de personnes. Donc je dis que ça démontre qu'on a fait des grands progrès quand même dans le domaine de la tolérance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît assez significatif.
Et oui, Serge.
Voilà.
Est-ce que vous pourrez peut-être nous parler tout à l'heure, je crois que vous restez avec nous en deuxième partie, dans ce petit club de la presse, vous restez en direct avec nous autour de cette table.
Oui, absolument.
Là, vous pourrez peut-être également nous parler de, je ne sais pas si vous pensez que le feuilleton de la fête du livre à Toulon continue, vous pourrez peut-être nous en toucher un mot.
Oui, vous savez, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, oui, c'est pas très intéressant, hein. C'est plutôt comique qu'autre chose, parce qu'en deux mots, les gens de Charlie Hebdo ayant demandé à la mairie d'assurer la sécurité de leurs représentants qui venaient à Toulon, je me suis permis de leur répondre que la mairie n'était pas chargée de la sécurité des ordures, mais simplement de leur ramassage. Et je leur ai fait ça sur une petite carte manuscrite. Et ces gens-là qui tiennent le journal le plus abject qui soit en France, qui est même pas digne de recouvrir des murs de toilettes de gare, qui déverse toutes les semaines des torrents d'obscénités et de cochonneries, se sont sentis, figurez-vous, choqués par ma lettre, qui est, disent-ils, écrite sur un ton cru, voire même injurieux, oui, et qui porte atteinte au respect dû aux journalistes.
C'est ça. Parce que ce que écrivent n'est jamais injurieux. Ils ne portent pas tête au respect.
C'est-à-dire que le respect, c'est pas quelque chose qui se distribue comme le chômage, comme les indemnités chômage. C'est quelque chose qui se mérite, le respect. Et véritablement, les gens de Charlie Hebdo, de ce lapsus terrible, les gens de Charlie Hebdo n'ont jamais rien fait pour mériter mon respect. Je n'ai aucun respect pour eux, j'ai le plus profond mépris pour ces voyous de presse, voilà, je le dis très tranquillement, et par conséquent, je trouve que j'ai été d'une extrême retenue dans mon petit mot.
Bien, Serge, Serge, il est 6h17, me permets de vous interrompre pour vous dire qu'Éric Letty, bonne nouvelle, vient d'arriver dans le studio, et que je vais céder la parole au pasteur Blanchard, qui est
voilà, Je suis content de recevoir le pasteur Blanchard, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, bien qu'il soit protestant, mais enfin, nobody is perfect.
Personne n'est parfait.
Voilà, c'est ça. Et donc, je voudrais alors, il est déjà venu dans cette émission, il était venu en compagnie de Madame Le Pen, de Madame Janie Le Pen, et il revient nous voir ce soir, parce qu'il voudrait nous parler d'un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Alors, bonsoir, monsieur le pasteur.
Bonsoir, Serge.
Comment allez-vous? J'espère que
je vais très bien, merci.
Bien, en dépit de la lourde charge qui est la vôtre.
Oui, j'essaye de la gérer avec la grâce de Dieu.
Ah, ça, écoutez, faut voir. Bon, je ne veux pas vous taquiner plus longtemps, je voudrais, parce que vous venez pour parler de choses sérieuses et importantes, et j'aimerais donc que vous vous présentiez d'abord, que vous nous disiez qui vous êtes et quelle est votre expérience, parce que je précise que vous n'êtes pas seulement, si j'ose dire, pasteur, vous avez une expérience personnelle et professionnelle qui est tout à fait intéressante.
Oui, il faut dire que j'ai un cursus qui est tout à fait original, puisque avant d'entreprendre des études de théologie, j'ai d'abord une formation d'éducateur. Et mon premier métier, c'est travailleur social. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a marqué indélébilement et qui m'a donné une façon de voir mon ministère très particulière. C'est une des raisons pour laquelle j'ai eu le courage, il faut le dire, de passer le Rubicon et de travailler avec Madame Le Pen. J'ai commencé dans le social dans des conditions assez difficiles, puisque j'ai été embauché à l'Armée du Salut dans un premier temps. J'ai été animateur à la Cité de Refuge dans le 13e, à une époque où il n'était pas facile d'être travailleur social, puisque nous étions deux animateurs à temps plein
pour une population de 250 marginaux, avec un qui était de service par week-end pour gérer tout ça, l'alcool, la violence. Et j'ai commencé dans des conditions très difficiles, ce qui m'a formé et m'a appris à mieux comprendre les problèmes de société. Et je l'ai dit sur ces antennes l'année dernière, quand je suis venu avec Madame Le Pen, je suis habité, d'ailleurs je m'en suis ouvert à nos amis qui sont là, que ce soit Martin ou à Alain, je suis habité un petit peu par cette dimension sociale qui me paraît quelque chose de fondamental. Je ne suis pas un politique, je suis un compagnon de route du Front National. J'ai des idées bien sûr nationales, mais pour moi, je crois que les vrais problèmes et les vraies questions dépassent les problèmes politiques, politiciens. Ils sont certes nécessaires, il faut qu'il y ait des partis, il faut qu'il y ait une concurrence, il faut qu'il y ait des élections, mais aussi il faut répondre à ce désarroi des gens qui sont dans des cités difficiles, ce désarroi qui n'est pas simplement un désarroi d'ordre matériel, contrairement à ce qu'on nous dit, ou politique, mais qui est aussi avant tout, et nous sommes des chrétiens autour de cette table, même si nous avons des différences que nous ne voulons pas gommer, dans le respect de l'autre et dans la charité, nous ne voulons pas gommer nos différences, nous sommes quand même sensibles à ce désarroi de nos compatriotes dans les cités où il n'y a plus de sens de famille, de sens de valeur, où souvent les familles sont éclatées, les enfants ne savent pas vraiment qui est leur papa, ils ont plusieurs papas ou plusieurs mamans, et ils sont dans un état psychologique très très difficile. Et je crois qu'aucun parti politique n'a eu le courage de répondre à cette attente. Les dernières élections en 93, j'avais été invité dans un dîner qui se faisait à l'époque dans les familles, un dîner où on invitait les notabilités, où on parlait des problèmes de société et des problèmes politiques. Et là, il y avait Galy Dejean dans le 15e, j'étais pasteur dans une paroisse du 15e, et je lui ai posé la question, que comptez-vous faire par rapport aux problèmes psychologiques et sociaux dans lesquels se trouve notre population? Et il m'a répondu à ma question par une réponse que j'ai déjà entendue mille fois, on va repeindre les cages d'escalier, on va arranger l'habitat, et je lui ai répondu que ça me semblait quelque chose de tout à fait accessoire par rapport aux vrais problèmes. Ça me rappelle un petit peu ces couples qui sont divisés, dont les parents se chamaillent tout le temps et qui disent à leur enfant, voilà un billet de 500 francs, il va t'amuser, comme si ça allait solutionner les choses, de leur donner de l'argent.
Je souhaite que quand ils disent, c'était Rocard qui avait dit ça, qu'il fallait repeindre les cages d'escalier, faire fonctionner les ascenseurs, etc. Ils oublient toujours une chose, c'est de nous dire qui a cassé les ascenseurs, qui a sali les cages d'escalier et qui a dessiné sur les murs. Ce sont les gens qui habitent là. Et quand même ça, c'est un signe, parce que cette conduite d'automutilation, en quelque sorte, montre bien qu'il y a un désarroi grave, une espèce de destruction de l'individu, une espèce de destruction de la personne humaine, qui fait qu'il faut remédier à cette destruction et pas à l'environnement. Et visiblement, c'est une chose que ces gens-là ne comprennent pas. Ils croient qu'il suffit de repeindre les murs pour que les gens qui vivent dans la maison soient heureux.
Oui, je crois que le mal est plus profond, puisque vous savez, ça a été dit dans National Hebdo, j'en remercie Martin d'avoir eu la gentillesse de passer l'article dans NH, j'ai moi aussi connu en 68 toute cette dérive, cette dérive intellectuelle, morale, spirituelle, se laisser aller, qui a conduit là où on en est à l'heure actuelle. Et je crois que le mal est plus profond, le mal est à la racine, et là maintenant on est arrivé à un tel degré que le tissu social est en train d'exploser. Et je crois que à tous les mouvements politiques, vous savez que j'ai appartenu à l'UDF, je l'ai dit ça aussi il y a bien des années, j'appartenais pas à l'UDF, hein, parce que j'étais à une commission où j'ai rencontré M. Cloasguen, M. Périssol et des gens importants, j'étais le seul éducateur de base, j'ai essayé de faire passer un discours qui n'était pas technocrate, et malheureusement ces gens-là étaient pris dans un réseau de préoccupations qui faisait que toutes ces choses-là ne les intéressaient pas, et je crois que cette dimension manque à tous les mouvements politiques, y compris au mouvement national. Et cela a des fins non électorales, bien sûr, parce qu'on ne s'occupe pas du désarroi des gens uniquement quand ils sont en difficulté.
Bien sûr. À propos de M. Glasgow, d'ailleurs, en plus, vous étiez en mauvaise association, si j'ose dire, parce que c'est quelqu'un qui a la poisse. Récemment, il a donné une interview au Nouvel Observateur. Il a été sous-ministre pendant un moment. Et donc il a donné une interview au Nouvel Observateur qui a été annoncée dans le sommaire du Nouvel Obs, mais entre-temps il y a eu les attentats attribués aux terroristes du GIA, et le Nouvel Observateur a fait donc l'article, a fait un long article sur le terrorisme arabe, Et l'article de l'interview de M. Gloasguen a sauté. C'est fort dommage parce que M. Gloasguen était en train d'expliquer le jour où il y a eu les attentats du FIS ou du GIA que le grand danger qui menaçait la France, c'était le Front National. Donc, vous voyez, compter sur des gens comme ça pour remonter la pente, je crois que c'était au moins une erreur d'appréciation, mais je constate que vous vous êtes racheté de...
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à dire que moi, j'ai pu rencontrer aussi, après, M. Le Pen, Mme Le Pen, Bruno Maigret, des gens qui, certains sont devenus des amis, Samuel Maréchal, et il n'y a que là où vraiment j'ai entendu un écho par rapport à ces problèmes qui était quelque chose de pas simplement intéressant, c'est pour des fins électoralistes, parce que c'était tout ça. Moi, je peux vous dire que j'étais au moment où ils ont créé les nouveaux pauvres. Ça a été lancé dans cette commission de l'UDF, un petit peu comme une savonnette. Ouais. Tout ça, c'était électoraliste. Et je crois que les vrais problèmes de fond, on ne peut que les traiter si on est désintéressé par rapport à ces problèmes et pas simplement à des fins électorales.
Alors, quel est votre projet? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre sur pied?
Eh bien, j'ai rencontré plusieurs fois tous les responsables du Front. Et vous savez que moi, au-delà, j'allais dire, du front, je suis habité par une cause, et cette cause qui fait que je me bats et que j'avance, c'est pas simplement un engagement politique, mais aussi un engagement philosophique. Et moi, mon idée que j'essayais de défendre auprès du président ou auprès de Bruno Maigret ou auprès de mon ami Samuel Maréchal, c'est que il est nécessaire qu'à côté du politique, de la politique classique, qu'il y ait quelque chose de nécessaire, soit développé des actions qui aillent dans le sens de la prise en compte des vrais problèmes des gens, qui sont avant tout des problèmes psychologiques. Qu'il y ait des gens pour les écouter, qu'il y ait des gens qui soient là, disponibles pour entendre ce qu'ils ont à dire, et pour essayer d'apporter des réponses, pas simplement sur le plan matériel, pas simplement sur le plan social, certes, elles sont souvent nécessaires, mais aussi sur le plan psychologique. Parce que là, on le sait, et je tiens à dire que cette lecture que je fais est partagée par tout un tas de gens. Vous savez, je travaille dans une structure où je suis le seul national, et je travaille avec des gens de gauche. Eh bien, ces gens-là, je vais les citer parce qu'ils ont été très gentils quand je suis passé avec Jean-Marie Le Pen après son premier tour. J'ai été vilipendé par une partie de mes collègues de travail. J'étais le gentil pasteur ouvrier, je suis passé d'un seul coup le mauvais pasteur nazi. Et ces gens-là m'ont soutenu parce qu'ils considéraient que j'étais un professionnel et que j'étais quelqu'un de profondément honnête. Mais ces gens-là sont tout à fait conscients de ce problème au-delà de leur clivage idéologique. Quand Thierry Bouzard, dans la lettre de Jean-Marie Le Pen, est venu m'interviewer, il est tombé sur Claude Pigeat. Et Claude Pigeat, c'est un homme de gauche qui lui a dit maintenant c'est trop tard, les choses sont allées trop loin, et il n'y a rien à faire parce que on n'a pas voulu tenir compte des vrais problèmes, on a enlevé les éducateurs du terrain, et tous ces gens-là, que ce soit Claude Pigeat, Daniel Cadeau, Alain Thomas, tous ces gens-là ont conscience, sont des gens de gauche, que on est dans une période où les choses sont en train d'exploser. Et je crois que notre rôle aussi en tant que chrétien, c'est d'essayer d'être des ponts pour apporter des réponses morales, des réponses pratiques. Et je tiens à dire que je ne suis pas là en tant que pasteur, bien sûr, certes je suis pasteur, mais je suis là en tant que travailleur social. Je crois que ce sont des choses qui manquent au sein du mouvement. Et ces réponses, on ne peut les apporter, comme j'ai dit tout à l'heure, que si on est tout à fait désintéressé, que si les gens sentent qu'on les intéresse, qu'on n'est pas là pour... en tirer quelque chose, pour en tirer un profit, mais réellement pour prendre en compte leurs problèmes.
Alors, d'une manière structurelle, qu'est-ce que vous allez mettre sur pied?
Alors, je souhaiterais, ce que j'ai demandé au président, c'est que je pense que mes capacités, pour l'instant, par rapport à ma formation, pas ma formation de pasteur, je précise, mais ma formation d'éducateur, mes capacités sont sous-employées au sein du mouvement. Je souhaiterais mettre sur pied tout un tas d'actions caritatives qui ont une dimension fortement pratique par rapport à des réalités concrètes. Je souhaiterais que les responsables du mouvement soient amenés, eux aussi, à prendre conscience de cette dimension en venant sur le terrain, quand ils auront le temps, bien sûr, en mettant en place des projets qui seront des projets d'abord d'aide à nos compatriotes qui sont dans le désarroi, mais aussi des projets d'aide, comme j'ai pu le dire, à tous ceux qui, au-delà, puisque je ne suis pas un politique, au-delà de notre parti et de nos compatriotes, se retrouvent dans cette communauté de destin qui est celui de l'Europe, au-delà de nos différences nationales, ces gens-là qui n'intéressent personne, parce que quand on est une petite famille en France, qu'on a peu d'enfants, que tous les deux travaillent, qu'on paye des impôts, on n'intéresse personne. On est corvéable et malléable. Et ces gens-là vivent vraiment une crise, un grand désarroi, comme j'ai pu le dire dans la lettre ouverte à Jacques Chirac. Et c'est à ces gens-là que je vais m'adresser. Alors, je me suis adressé au président Le Pen, je me suis adressé à Samuel Maréchal, je me suis adressé à Bruno Maigret, j'ai l'intention de voir Bruno Gollnisch, et j'espère que je pourrai mettre sur pied des actions caritatives, et peut-être, ultérieurement, ultérieurement aller un peu plus loin. Pour l'instant, j'en suis à ce stade-là.
Alors, ça veut dire que vous allez créer une structure, vous allez créer un cercle, vous allez créer une association qui va intervenir dans ce domaine.
Non, l'idée, bon, premièrement, c'est je suis seul, hein, ce que j'avance, je suis seul. C'est pour ça que j'ai tenu à passer sur vos ondes pour me faire connaître. Là aussi, parce que j'ai une formation, j'ai 20 ans d'expérience dans le travail social. J'allais dire que cette richesse que j'ai pu avoir et acquérir, c'est quelque chose que nous n'avons pas dans le mouvement. Mon idée, dans un premier temps, c'est de proposer, comme ça, quelques actions ponctuelles pour intéresser les responsables du mouvement à cette dimension caritative et sociale. Il y a des projets qui sembleraient se mettre en place, je ne peux pas en dire plus parce que le président m'a demandé de faire silence là-dessus. Est-ce que ça sera dans des structures qui existent déjà au sein du front, qui seront restructurées? Est-ce que ça sera dans des structures externes? Je ne peux pas encore le dire puisque ça c'est entre les mains du président et de Bruno Maigret. Une chose est sûre, ce qui me paraît important dès maintenant, dès cet hiver, c'est qu'on ait des actions concrètes et ponctuel sur le terrain. Et d'ailleurs, je me suis adressé à Alain Sanders qui est là, tout à l'heure quand il est arrivé, pour lui dire, Alain, il faudra que l'hiver prochain, on fasse un certain nombre d'actions sur le terrain pour montrer que les gens du Front National sont les gens vraiment du peuple, que Le Pen, le peuple, c'est une réalité, pas à des fins électorales, mais à des fins vraiment d'amour du peuple français dans son désarroi, au-delà des campagnes électorales qui sont des dimensions ponctuelles qui ne s'enracinent pas dans la vie des gens. Alors, pour l'instant, donc, ça sera des actions ponctuelles que je souhaiterais mettre en place. Dans un second temps, si le président me confie des responsabilités ou d'autres, eh bien, ça sera plus développé. Je tiens à dire que si aussi je parle sur ces antennes, c'est que je suis seul et que j'ai besoin de gens qui seraient intéressés à ce type de projet pour venir m'aider, pas en tant que, là aussi, que pasteur et protestant, mais en tant que travailleur social. Ce que j'ai pu dire à Martin qui est là, c'est que, bon, il n'y a pas de prêtre ouvrier, je suis un pasteur ouvrier quelque part, c'est comme ça, les choses sont faites comme ça, et je viens avec mon bagage, mais je crois que tous les Français, au-delà des clivages, au-delà des confessions, vivent ce désarroi, nos églises se vident, parce qu'il n'y a plus de repères moraux, parce qu'il n'y a plus d'éthique, et je crois qu'il y a besoin de renouer ce tissu social.
Merci. Serge, oui. Excusez-moi Serge.
Oui, je vous en prie François. Donc, je voulais remercier le pasteur Blanchard, Jean-Pierre Blanchard, parce que il n'est pas dans ses activités de pasteur, il nous l'a dit, donc on peut l'appeler par son prénom.
Oui, tout à fait Serge.
Et je voulais le remercier, et puis lui dire que naturellement l'antenne de cette émission lui serait ouverte chaque fois qu'il aurait besoin de donner un écho à son action pour trouver des bonnes volontés, et j'espère que là, beaucoup d'auditeurs prendront contact avec lui. Je trouve que c'est une bonne chose, je le dis, que quelqu'un qui vient d'un univers qui n'est pas classiquement relié au Front National se manifeste de cette façon, et j'espère qu'il aura beaucoup de contacts avec des amis.
Oui, Serge, avant de reprendre le micro ou l'antenne, comme on veut, le pasteur Blanchard voudrait ajouter un petit mot.
Un dernier mot qui sort un peu de ce débat. Je voudrais aussi lancer sur ces antennes un appel aux protestants, puisque nous sommes peu nombreux au cercle des amitiés protestantes. S'il y a des protestants susceptibles de nous aider, d'adhérer, mais aussi de tenir des permanences, puisque nous avons maintenant un local à Vauguyon, qu'ils se fassent savoir à l'adresse du cercle des amitiés protestantes, 15 rue d'Antan, 92 210 à Saint-Cloud. Merci Serge.
Monsieur le pasteur, vous allez répéter votre adresse et coordonnées lentement.
D'accord. Alors, Cercle des Amitiés Protestantes, 15 rue d'Antan, 92 210 Saint-Cloud. Et le téléphone, donc c'est le 41 12 10 13. Si vous voulez avoir un responsable du cercle à Saint-Cloud, il faut s'adresser au secrétaire général, monsieur Claude Févré. Merci pour tout, Serge.
Eh bien, je vous rends la parole, mon cher François, pour ce club de la presse.
Oui, je vous remercie, Serge, mais donc vous restez avec nous.
Et
je ne vous présente donc pas. Je commence par présenter ce qui a déjà été fait, notre ami Alain Sanders, de présent. Martin Pelletier, de National Hebdo, directeur de la rédaction à National Hebdo, et auteur d'un livre tout récemment sorti qui s'appelle « L'affaire Carpentras, analyse d'une manipulation d'État ». Je demanderai à Martin Pelletier de nous en dire un petit mot tout à l'heure. Éric Letty, qui est arrivé un peu en retard dans le studio, est là parmi nous. Éric Letty est journaliste à Minute, collabore occasionnellement à Aspect de la France. Il est également chroniqueur dans une revue qui s'appelle Certitude. Voilà. Je pense que la semaine que nous vivons actuellement est la semaine des plans. Je ne sais pas, Serge, si vous êtes de mon avis. J'ai remarqué que...
Le plan, pas du tout au sens que lui donnait le célèbre écrivain défunt Papillon.
Non, effectivement.
Encore que par certains côtés, ça peut y ressembler.
Mais par certains côtés, on l'a au même endroit.
Voilà.
Oui. Non, mais pour être plus sérieux, on peut parler par exemple des plans Juppé, concernant la sécurité sociale et les grèves qui s'annoncent d'ailleurs très prochaines, le plan de M. Clinton, plan des accords de Dayton, le plan de M. Bayrou, et pour ne parler que de l'actualité la plus brûlante, ou la plus prenante du moins dans nos journaux. Parce que d'autres choses peuvent également nous intéresser, nous essaierons d'en parler si nous avons le temps. Temps qui s'écoule très vite. Je voulais vous dire également, Serge, que depuis que l'émission a commencé, un flot de messages est déjà arrivé près de nos micros. Notamment, alors un auditeur qui manque pas d'humour, peut-être, je ne sais pas si c'est de l'humour, mais qui s'inquiète. Il voudrait savoir qui paie la communication de votre téléphone, de votre coup de fil.
C'est moi. C'est moi, voilà. Alors, je peux répondre. Je crois pas que ce soit Jean Ferré. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de Charlie Hebdo, parce que comme j'ai envoyé une carte de visite à Charlie Hebdo, ils se sont émus parmi les nombreuses émotions qu'ils ont éprouvées à cette occasion. Ils se sont émus du fait que je l'avais fait aux frais du contribuable. Et effectivement, je dois dire à ma grande honte que j'ai fait timbrer cet envoi par la poste de l'Amérique.
Alors j'espère que...
Alors immédiatement je me suis racheté et là c'est moi qui paye le téléphone.
Que cet auditeur est rassuré. D'ailleurs on peut, puisqu'il est soucieux il semble très soucieux des problèmes d'argent concernant cette station, nous pouvons lui rappeler que les journalistes qui sont autour de cette table, à commencer par vous, ne sont pas rétribués. Et ne gagnent pas un centime.
Personne.
Au contraire, ils en perdent, si l'on peut dire, en collaborant à Radio Courtoisie.
Personne n'est payé à Radio Courtoisie, c'est connu, on est tous bénévoles, évidemment. Et il y a un moyen, si cet auditeur s'inquiète réellement des finances de la radio, il y a un moyen de régler ce problème, c'est d'envoyer double ou triple cotisation, ce qui sera toujours très bienvenu. Et je rappelle que les auditeurs qui cotisent pour un montant égal ou supérieur au montant de la redevance télévision peuvent recevoir un magnifique cadeau, en l'occurrence, je crois que c'est 3 exemplaires du livre auto-édité par Radio Courtoisie et qui présente la radio et qui donne la parole aux plus prestigieux invités qui ont été reçus depuis 6 ans.
Et on me passe également un autre message. Un auditeur qui est au chômage se dit prêt à aider le pasteur Blanchard. Bon, il voudrait un numéro de téléphone. Mais enfin, il ne faut pas se laisser déborder non plus, Serge, par les messages de votre émission. Il faudrait quand même également faire notre... Le pasteur Blanchard me supplie de lui laisser...
30 secondes. Si vous voulez prendre contact avec moi, téléphonez-moi au cercle, donc rue d'Antan, et puis contactez par Claude Février, et puis il fera suivre.
Alors, le numéro de téléphone.
Le numéro de téléphone, vous téléphonez au standard, le 41 12 10 13, et vous demandez Claude Février, F-A-I-V-R-E-T. C'est le secrétaire général du CAP, et il me fera suivre tout le courrier ou tous les coups de fil. Merci.
Bien, Serge, est-ce que vous voulez aborder le sujet de M. Bayrou et de nos chers étudiants?
Enfin, on peut l'aborder d'une façon simple, c'est-à-dire en remarquant d'abord que M. Bayrou, avant même qu'il ouvre la bouche devant les étudiants pour exposer son plan, a été hué, ce qui montre à l'évidence que la véritable préoccupation des manifestants n'est pas de régler les problèmes qu'ils prétendent soulever, mais qu'il y a autre chose derrière.
D'accord. Alain Sanders, sur ce sujet, ou Martin Pelletier.
Non, je crois, François, qu'on va prendre un peu le taureau par les cordes, ou plutôt l'émission à bras-le-corps.
Parce que si ça finit à 7h,
il est 7h moins quart de l'heure pour parler.
Il y a 3 plans, pour parler de 3 plans de revue.
Je suis de l'avis de
vite, oui, donc,
Alain, vite, vite. Moi, je pense que ces plans n'en sont pas, et que, surtout, on a parlé de courage dans les 3 cas, et qu'il n'y a aucun courage. Par exemple, un Juppé, concernant la sécurité sociale, ne parle que du financement, et il ne met pas le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire la gestion des syndicats, et les
dépenses qui sont malheureusement grevées par l'immigration. De la même façon, Bayrou, qu'est-ce qu'il fait? Il va réunir des états généraux, c'est-à-dire qu'il ne résout rien. Et quant à la Bosnie, comme c'est un sujet qui divise un peu la famille nationale, je ne prendrai pas parti définitivement sur la question. Je ne crois pas non plus que le plan Clinton soit de nature à régler tous ces problèmes. Donc, c'est trois plans, trois poudres aux yeux, trois faux courage. Voilà, c'est tout ce que je veux dire très rapidement, parce que je crois qu'il y a énormément de sujets à traiter.
Oui, le second.
Alain, peut-être quelque chose à ajouter.
Justement, je pense que Alain Sanders, qui a fait un long article aujourd'hui.
Je vais dans le même sens.
Pourrait nous parler des accords de Dayton.
Oui, on peut parler des trois rapidement. Ce qu'il a dit est vrai. Tant que Juppé ne parlera pas de l'immigration, c'est comme s'il crachait en l'air.
Et de la sélection.
Ça nous retombe dessus. Tant que Bayrou ne parlera pas du véritable problème, qui est celui de la sélection, ça ne veut rien dire. Tant qu'on n'aura pas compris que ce qui se passe à Dayton est en fait un plan mondialiste qui est voulu par une aile gauche, et le mondialisme à l'heure actuelle a deux ailes, comme un mauvais oiseau, une aile gauche qui est à Moscou, une aile droite qui est à Washington. Ce n'est pas le plan Clinton, c'est un plan qui a été fait avec la bénédiction de Moscou, bien sûr, voilà.
À ce propos, je signale qu'Alain Sanders a fait un article dans Présent d'aujourd'hui, qui est en vente jusqu'à demain midi, dans lequel il développe longuement et de façon précise ce qu'il vient de nous dire.
Il en a parlé, Bayrou, de la sélection. Il a dit à midi...
Oui, qu'il était contre.
Voilà.
Oui, d'accord. Oui.
Il le répète tous les jours.
Il l'a répété encore aujourd'hui.
Alors,
avec son plan.
S'ils sont contre la sélection, s'ils ne parlent pas du problème de l'immigration, il faut mieux qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ne régleront rien et on pourra débourser et sortir de l'argent et sortir des plans.
À propos de la sécurité sociale, je crois qu'il faudrait dire une chose, parce qu'on parle de l'immigration, mais je crois qu'il faut donner des chiffres. Il faut rappeler une chose. Je l'ai déjà dit à cette antenne et je le répète. Une des informations les plus capitales qui a été publiée récemment sur la question de l'immigration a été donnée par M. Jean-Claude Barrot, qui est conseiller de M. Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, conseiller chargé des problèmes d'immigration. C'est donc l'homme qui, en France, dispose forcément des meilleures informations sur la réalité de l'immigration. Et ce M. Jean-Claude Barrot a dit la chose suivante, qui n'a été reprise par personne, ça a été publié dans Libération un samedi, et en dehors du Libre Journal, personne n'a fait la moindre allusion à cette interview, qui est pourtant capitale. Il a dit la chose suivante, il y a eu un bouleversement, une modification très très profonde de la nature même de l'immigration en France depuis quelques années. Pendant des années, immigrés en France, des gens qui apportaient une force de travail, et qui étaient donc des travailleurs, et qui étaient donc des cotisants à la sécurité sociale. Depuis quelques années, 80% de l'immigration légale qui arrive en France est constituée de gens qui ne travaillent pas, mais qui bénéficient de l'assistance sociale.